Imaginez-vous la nuit. Vous êtes allongé sur le sable encore chaud d'une plage déserte. Au-dessus de vous, au-dessus de l'océan, les étoiles scintillent. Vous n'en êtes pas sûr, mais il vous semble reconnaître quelques formes, quelques constellations. Le ciel vous est familier. Et ce n'est pas juste une impression. Ce ciel, c'est celui de l'humanité, car à quelques étoiles près, il est parfaitement identique au ciel que tous nos ancêtres ont pu contempler la nuit, depuis la nuit des temps. Cela signifie qu'à l'échelle humaine, à l'échelle d'une vie, il est facile d'imaginer le ciel nocturne comme étant immuable, permanent. Jusqu'à il y a environ 100 ans, c'est ce qu'ont pensé tous nos ancêtres astronomes, et il en serait probablement encore ainsi si tous ces astronomes n'avaient pas, petit à petit, transmis leurs découvertes aux générations suivantes. Car ce n'est qu'en accumulant les observations, en améliorant nos technologies, que nous avons commencé à prendre conscience de la taille réelle de notre univers et d'ainsi voir que le permanent dans notre cosmos n'existe pas. Tout dans l'univers bouge et change. Tout a une histoire, y compris notre univers lui-même. Lorsque les scientifiques ont réalisé cela, une nouvelle branche de la physique est née, la cosmologie. C'est l'étude de l'univers, de ses structures, de ses changements, de son histoire, de son commencement. Aujourd'hui, la vision que nous avons de cette histoire est la suivante. Notre univers est apparu tel que nous le comprenons il y a environ 13,8 milliards d'années. Il était très chaud et tout petit. Et il a grandi et il s'est refroidi. Et il a grandi encore et encore. Et il grandit encore aujourd'hui. On dit qu'il est en expansion. Alors normalement, quand on y pense, une expansion ne peut pas éternellement continuer à la même vitesse. Elle ralentit forcément au bout d'un moment. Mais voilà. En 1998, deux équipes de chercheurs menées par Saul Perlmutter, d'une part, Brian Schmidt et Adam Riess de l'autre, ont publié une découverte extraordinaire qui leur a valu le prix Nobel de physique en 2011. Ils ont découvert que loin de ralentir, l'expansion de notre univers accélère. Et ça, c'est pas vraiment possible. À moins d'ajouter au contenu de notre univers une énergie inconnue, une énergie qui représenterait 70% de l'énergie totale du cosmos. Cette énergie, nous l'appelons aujourd'hui énergie noire ou énergie sombre, et c'est pour tenter d'en déchiffrer les propriétés, pour tenter de voir si elle existe vraiment et de quoi elle peut être faite, que j'ai la chance d'avoir à mes côtés trois invités pleins d'énergie.
Bonjour, moi je m'appelle Marc Sauvage, je suis chercheur au commissariat à l'énergie atomique, au département d'astrophysique. Et c'est là qu'on peut dire que l'énergie noire m'a trouvé, parce qu'à l'origine, moi je suis plutôt préoccupé du côté lumineux de la force. Alors il n'y a pas un retournement d'alliance ou un paradoxe là-dedans, parce que l'astrophysique c'est quand même une science du regard. Et quand on regarde, on peut difficilement dissocier l'ombre de la lumière, et je pense que c'est ce dont on va parler.
Et moi, je suis Pauline Zarouk, je suis cosmologiste au CNRS. Je travaille au laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies de Sorbonne Université. Et je suis responsable de l'un des projets dont on va parler, qui cherche à comprendre cette énergie noire, le projet DESI pour le CNRS, nucléaire et particules. Et en fait, ce qui m'a amenée à l'astrophysique, c'est deux considérations. Une plutôt philosophique, essayer de savoir la place que nous avions dans notre univers et où est-ce qu'il allait. Et je me suis rendu compte que l'astrophysique pouvait apporter ce genre de réponse. Et en fait, je me suis aussi rendu compte qu'on savait rien, pratiquement, de notre univers. On sait uniquement 5% de notre univers. Et le reste, ça reste à découvrir et à comprendre.
Alors, Christian Eck, je suis comédien, metteur en scène et parfois auteur. Je suis le 525e sociétaire de la Comédie Française. Et je suis fondateur de la compagnie, avec mon épouse Valérie Lessort, de la compagnie Point Fixe.
Christian Eck, Pauline Zarouk, Marc Sauvage, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en public et en direct depuis le studio 181 de la Maison de la Radio et nous allons partir à la recherche de l'énergie noire.
Big Bang, Christophe Galfard.
Christian Eck, j'ai envie d'attaquer directement avec vous. Est-ce que vous avez une idée de votre place dans le cosmos? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Mais moi, alors, je vais être bref. Avant d'être comédien, je rêvais de faire de la physique. Et donc, qui dit physique, dit aussi astrophysique. J'ai toujours été passionné par les romans de science-fiction. Donc, le cosmos m'a toujours fait rêver. L'idée de l'infini ou du fini, l'idée de plus on voit loin, plus on voit dans le passé, tout ça me donne des frissons et me fait vraiment rêver. Et regarder le ciel la nuit et les étoiles, ça reste des moments privilégiés.
J'espère qu'on va vous faire voyager pas mal aujourd'hui dans cette recherche de l'énergie noire. Mais avant de partir directement voir comment éventuellement on peut la détecter ou comment on peut essayer de deviner de quoi elle est faite, j'avais envie de vous demander, Marc Sauvage, peut-être, et même Pauline Zarouk, tous les deux, de commencer à nous décrire un petit peu l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors nous, on habite sur une planète qui tourne autour d'une étoile qui appartient à une galaxie.
Voilà, ça c'est le point de départ. Une galaxie, c'est une collection d'étoiles, il y en a quelques centaines de milliards. C'est des étoiles qui ont chacune leur histoire, qui est une histoire liée à celle de l'univers. Elles ne sont pas toutes les mêmes, il y a toute une population. Alors ça peut être intéressant en soi. C'est une source de complications dans ce qu'on va faire, parce que une galaxie, c'est un être assez compliqué. Et notre galaxie n'est pas seule dans l'univers. Elle a des voisines, certaines qui lui sont liées par la gravitation. Elle est voisine plus distante, elle fait partie d'une structure, d'un amas de galaxies qu'on appelle poétiquement l'amas local, faute d'autre chose. Et quand on va à beaucoup plus grande distance, on va retrouver d'autres galaxies qui sont elles aussi dans des amas, et comme ça un peu jusqu'à l'infini, mais pas de façon complètement aléatoire.
Dans l'univers, si je vous demandais, Christian Eck, là, de le décrire en deux secondes, vous décririez ça
alors,
comment?
Avec mes connaissances lointaines et ce que m'ont raconté mes souvenirs de professeur de physique ou d'astrophysique, moi j'ai l'image d'un univers en expansion à grande échelle et à petite échelle qui se contracte. C'est-à-dire comme, dans mon esprit, c'est le reste d'une explosion initiale qui continue et par la gravitation à petite échelle tout se contracte.
C'est pas mal, hein, franchement.
Il y a un reste de cette explosion qui moi j'ai souvenir du rayonnement 3 Kelvin, je ne sais plus.
Il y a un rayonnement
qui continue. À se propager,
qui est là, qui est partout autour
de
nous.
Et que le but ultime, c'est de voir tellement loin qu'on va remonter au temps du Big Bang et que on va pouvoir comprendre des choses sur la création de l'univers.
Je veux bien rebondir dessus,
bien sûr.
Parce qu'il y a eu des choses très intéressantes qui ont été dites. Alors, il y a le fait, effectivement, que selon l'échelle à laquelle on regarde, on va pas avoir les mêmes forces en jeu, on va pas avoir les mêmes forces qui vont dominer notre système. Et c'est tout à fait vrai, c'est ce que disait aussi Marc, que si on regarde ce qui domine l'évolution de notre propre galaxie, c'est l'interaction gravitationnelle avec les galaxies les plus proches, notamment avec Andromède, qui est la galaxie la plus proche de nous. Mais si on regarde après à plus grande échelle, et à des échelles de séparation vraiment, on va parler de millions d'années-lumière de distance qui vont entre ces galaxies, et bien là par contre c'est effectivement l'expansion de l'univers qui domine. Donc c'est pas tout à fait faux, cette idée de, à plus petite échelle, on va être dominé par la gravité. La gravité, c'est une force attractive, donc effectivement les galaxies vont se rapprocher entre elles. Mais à plus grande échelle, les galaxies vont s'éloigner les unes des autres. Et elles vont s'éloigner d'autant plus vite qu'elles sont loin de nous. Et c'est ça, effectivement, cette découverte de l'expansion de l'univers. Ouais.
C'est amusant, cette idée de l'expansion de l'univers, parce que dans l'imaginaire collectif, j'imagine que quand on parle d'expansion de l'univers, on imagine un univers qui a un bord, quelque part, exactement. Et que ce bord va aller grignoter sur quelque chose. Et ça, c'est embêtant, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Ce que vous venez de dire, Pauline Zarouk, c'est que l'expansion n'est pas quelque chose qui est au loin d'un univers qui grandit en grignotant sur allez savoir quoi. Ce sont les distances elles-mêmes qui séparent les grandes galaxies, les galaxies éloignées, ce sont les distances qui s'étirent. Donc l'expansion, en réalité, les galaxies ne bougent pas vraiment beaucoup, un peu peut-être, autour de nous, mais très loin, ce sont vraiment les distances qui s'étirent. Donc l'univers grandit de l'intérieur. Et ça, lorsqu'on essaye de faire... Je vous ai posé la question, Christian Eck, tout à l'heure, de votre vision de l'univers, parce que honnêtement, si on demande à qui que ce soit de décrire l'univers, c'est trop compliqué. C'est trop grand, il y a trop de choses partout.
Oui, puis l'infini est inconfortable à concevoir.
Il n'existe pas forcément dans notre univers, l'infini.
Mais alors ça, vous me le direz.
On verra ça.
Ça va me rassurer un peu.
Mais du coup, on essaie de simplifier quand on essaie de faire de la cosmologie, d'essayer de comprendre l'univers. Et on se dit que tout est un petit peu pareil partout. Mais ce que vous étiez en train de dire, Pauline Zarouk aussi, c'est que, et vous, Marc Sauvage, c'est que lorsqu'on commence à aller à des très très grandes distances, on voit des structures qui commencent à apparaître dans notre univers. Marc Sauvage, vous voulez peut-être nous expliquer ça?
Oui, en fait. L'effet de la gravitation, c'est d'attirer les choses ensemble. Et Et ça, ça veut dire que si on part d'un instant où l'univers est une distribution de masse qui n'est pas tout à fait exactement homogène, et bien les endroits qui sont plus denses que les autres vont avoir tendance à attirer vers eux la matière qui se trouve à leur voisinage. Et l'évolution de ça va faire de l'univers quelque chose de très structuré à toutes les échelles. Quand on regarde comme ça, quand on essaie de reconstruire par la position en trois dimensions des galaxies les unes par rapport aux autres, autour de nous, eh bien on voit apparaître une très grande richesse de structures. Évidemment, moi j'ai parlé des amas de galaxies, hein, c'est des ensembles qui peuvent rassembler une centaine ou un millier de galaxies qui sont captives les unes des autres par la gravitation, mais ces amas de galaxies sont connectés les uns aux autres par des filaments de galaxies, c'est-à-dire des structures de galaxies plutôt allongées. Et tout ça fait quelque chose qu'on a tendance à appeler la toile cosmique, hein, parce que ça ressemble à ça, ça ressemble à une espèce de vaste toile d'araignée ou un vaste réseau de neurones. C'est des images qui représentent bien la structure de l'univers. Et cette structure, en parlant, enfin, c'est ce que fait Daisy, cette structure, elle a quelque chose de spécial.
Daisy, je précise juste, c'est l'expérience sur laquelle travaille Pauline Zarou, voilà, dont on parlera tout à l'heure.
J'ai tendance à montrer, et à la radio, ça passe pas très bien.
Oui, moi j'aime bien dire que les galaxies ne sont pas réparties de manière aléatoire dans le ciel. On pourrait croire que c'est le cas quand on les regarde, comme vous le décriviez, allongées sur une plage. Mais en regardant à plus grande échelle, et c'est ce qu'a permis les premiers relevés, les grands relevés du ciel, quand on regarde à plus grande échelle, les galaxies vont effectivement se structurer, c'est-à-dire que les galaxies vont se regrouper et former des clusters. Aujourd'hui, c'est un terme qu'on a plus besoin de vulgariser avec le Covid, vous voyez très bien, donc c'est ces amas de galaxies. Et donc il y a des endroits où il y aura beaucoup de galaxies et des endroits qui seront pratiquement vides de matière très, très sous-dense, ce qu'on va appeler des vides cosmiques. Et donc il faut s'imaginer les galaxies qui sont réparties à grande échelle comme des endroits où on a des regroupements de galaxies, ça va être les amas de galaxies. Et entre ces différents amas de galaxies, ils sont connectés par des fils dans lesquels il y a d'autres types de galaxies. Notre galaxie, par exemple, a priori, serait plutôt dans un filament de la toile cosmique, vu sa nature.
Et on n'est même pas au centre d'un amas, quoi.
Non.
Et on n'est plus rien du tout.
Il faut abandonner.
Et il y a des vides entre tout ça.
On est peu de choses, hein, c'est tout ce qu'on peut se dire. Pardon.
Non, mais il y a beaucoup de vides, de régions sous-denses, entre ces régions denses, et qui grossissent, ces vides cosmiques qui grossissent à mesure que l'expansion... augmente.
J'aime bien cette notion de vide cosmique parce qu'elle va revenir tout à l'heure et l'idée d'un vide cosmique. On a tous l'impression que dans l'espace il n'y a pas grand chose, qu'il n'y a pas grand chose entre les étoiles de la Voie lactée, mais c'est rien, enfin c'est ultra dense par rapport à ce qu'il y a dans ces vides cosmiques qui sont partout. Si on veut donner une idée de la taille de ces vides cosmiques, si on part de la Terre pour aller jusqu'à la Lune à la vitesse de la lumière, on met une seconde. On se pose sur une petite lumière, on met une seconde pour aller à la Lune, 8 minutes et quelques pour aller au Soleil. Pour traverser notre galaxie à nous, on met 100 000 ans, à peu près, à la vitesse de la lumière. Combien de temps est-ce qu'on mettrait pour traverser les vides cosmiques qui nous entourent, Pauline Zarouk ?
Alors, je ne sais pas trop répondre à cette question au sens où ça va dépendre de plusieurs, paramètres. Mais ce qu'on sait, c'est que la taille des vides, c'est vraiment, ça va être de l'ordre de... ça va être des centaines de millions, de milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que les galaxies les plus lointaines qu'on observe, elles ont émis leur lumière il y a 11 milliards d'années. Alors on est capable de remonter jusqu'à la lumière émise par des galaxies il y a 11 milliards d'années. Donc on a une image de l'état de cette galaxie telle qu'elle était il y a 11 milliards d'années. Et les vides cosmiques vont se répartir, on va dire, au milieu de ces structures.
En chemin.
Exactement.
Traverse ces vides
et donc
cosmiques.
Après, voilà, effectivement, selon les régions de l'univers, ils vont être plus ou moins gros. Mais c'est surtout, nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup essentiellement avec cette la propagation de la lumière. Et voilà. J'aime bien que les gens gardent en mémoire qu'on est capable de remonter avec la lumière émise par les galaxies à il y a 11 milliards d'années dans l'univers.
On est très très fort.
Quand on estime que l'univers a 13,8 milliards d'années, donc c'est 11 milliards d'années par rapport à 13,8 milliards d'années d'histoire d'univers.
Et même avec les télescopes comme James Webb, on peut remonter jusqu'à 13,34 milliards d'années en arrière. Mais quand même, c'est juste pour donner une vague idée de la taille. Ce que je voulais dire avec la taille de ces vides cosmiques, c'est qu'ils sont colossaux, inimaginablement colossaux. Il y a des livres de science-fiction qui essayent, en disant des choses drôles, d'expliquer à quel point c'est colossalement colossal. Mais c'est bien au-delà. Notre galaxie à nous ne serait qu'un petits points à peine visibles à l'intérieur de ces vides cosmiques-là. Lorsqu'on regarde ces galaxies lointaines, on essaye de comprendre où elles sont, on essaye de comprendre quelle est leur distance par rapport à nous. Comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses, Marc Sauvage ?
Alors, en fait, la mesure la plus simple qu'on sache faire de la distance d'une galaxie, elle se base sur un effet qui est que lorsque la lumière se propage dans un univers en expansion, la longueur d'onde de la lumière... Alors, à votre dernière émission, vous aviez super bien expliqué la longueur d'onde. C'est, par exemple, la distance qui va séparer la crête de la houle, les deux crêtes de houle. Ben, ça, c'est la longueur d'onde de la houle. Bon, ben, la lumière, c'est un phénomène ondulatoire, il a aussi une longueur d'onde. Eh bien, quand la lumière se propage dans un univers en expansion, sa longueur d'onde se décale vers le rouge, se décale vers les grandes valeurs de longueur d'onde. Et donc, quand on arrive à repérer dans l'émission d'une galaxie, dans ce qu'on appelle le spectre, une signature, par exemple celle de l'hydrogène, qui est l'élément le plus abondant. On peut repérer la recombinaison de l'hydrogène, le fait que l'hydrogène qui est ionisé capture un électron. Ça, c'est une signature que la physique prédit à une longueur d'onde bien précise. Et quand on l'observe dans les galaxies, on s'aperçoit qu'elle n'est pas à cette longueur d'onde, elle est décalée vers le rouge. Et ce décalage, il est donc très facilement mesurable dans notre laboratoire, dans notre télescope. Et il est proportionnel au temps que la lumière a mis à se propager jusqu'à nous à travers l'univers. Donc il y a une relation de proportionnalité entre ce décalage qui est mesurable et la distance à laquelle la galaxie se trouve.
Ce que vous dites, c'est que en gros, lorsque l'hydrogène absorbe quelque chose, il va émettre de la lumière. On connaît cette lumière sur Terre et on voit que cette lumière a une certaine couleur qui est différente au loin. Et la différence entre ces deux couleurs
Exactement.
Nous donne la distance des galaxies.
Alors, je ne parlerai pas de couleur, parce que la couleur, c'est souvent un équilibre. Mais c'est une bonne image. C'est une bonne image.
Christian, est-ce que c'est parce que sur l'objet qui émet la lumière s'éloigne Exactement. Que la température Alors, change
c'est une bonne analogie, parce que c'est l'effet Doppler qu'on a avec le son.
Exactement. Et l'effet Doppler, je m'en souviens, et j'avais un professeur qui l'avait très bien décrit, pour vraiment, même les enfants peuvent comprendre... l'effet Doppler sonore, si vous vous imitez une ambulance qui passe près de vous, ça redevient plus grave. Ou une voiture. Même les enfants, quand ils jouent l'effet Doppler.
Malheureusement, Christian Heck, ce n'est pas l'effet Doppler.
Mais j'ai envie de raconter cette histoire.
Non, l'effet Doppler marche très bien pour les galaxies et étoiles qui sont pas très loin de nous, celles qui bougent beaucoup. Mais Marc Sauvage, ce n'est pas l'effet Doppler qui
Exactement,
nous fait...
Exactement, c'est parce que si on parle de l'effet Doppler, on va tomber sur des paradoxes du fait que la vitesse de la lumière est finie. Enfin, ça va compliquer les choses. Mais là, on a vraiment un effet qui est l'effet de la propagation de la lumière dans un univers qui est en expansion.
Mais là, l'analogie reste très pertinente parce que c'est effectivement cette idée que comme la galaxie s'éloigne de nous du fait de l'expansion de l'univers, la lumière émise, mais si on pouvait faire l'analogie avec si elle émettait une onde sonore, comme l'onde de sonore de l'ambulance, on aurait également, si on était capable d'écouter l'onde sonore associée à l'onde lumineuse que nous envoie la galaxie qui s'éloigne de nous, on aurait le bruit que vous venez de faire.
Il y a quelque chose d'amusant dans tout ça, et que je trouve absolument fascinant dans ce changement de couleur, disons, de la lumière des galaxies lointaines, c'est qu'il y a un effet qui est lié à la galaxie elle-même, aux étoiles elles-mêmes qui bougent, c'est l'effet Doppler dont vous parlez. Et l'autre, imaginez maintenant que vous lanciez une lumière, une vague, un son, si vous voulez, qui va traverser l'espace. Et ben, si vous étirez l'espace pendant que cette onde se balade, et ben, petit à petit, les crêtes vont s'éloigner. Et c'est ça qui change la couleur de la lumière, et c'est ça qui nous donne une vision de l'expansion de notre univers que nous allons continuer à explorer après avoir écouté Kill Me de Hayley Williams. Nous sommes toujours en direct avec le comédien et metteur en scène Christian Heck, l'astrophysicienne Pauline Zarouk, l'astrophysicien Marc Sauvage et le fabuleux public du studio 180 de la Maison de la Radio. Et nous sommes à la recherche de l'énergie noire.
France Inter, Big Bang, Christophe Galfard.
Christian Heck, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous imaginez le Big Bang comme une grosse explosion. Alors imaginons que ce soit le cas, c'est pas forcément ça, mais imaginons que ce soit le cas, une explosion, on voit les choses qui voilà, s'éloignent de l'endroit de l'explosion, en gros. Ça, il y a un souffle, il y a quelque chose. Et forcément, ce souffle, il ralentit au bout d'un moment parce que ça frotte, ça freine. Il y a peut-être de la gravitation qui va ralentir les choses. Et normalement, donc, cette expansion, cet agrandissement devrait freiner. Mais comme je le disais en introduction, en 1998, on a réalisé que cette expansion accélère. Et là, c'est là qu'intervient l'énergie noire. Pauline Zarouk, à travers certaines de vos expériences ou des expériences sur lesquelles vous travaillez, on essaie de comprendre ce qui peut causer cette accélération, c'est bien ça ?
Tout à fait, oui. Donc, faut se dire que les distances entre les galaxies augmentent au cours du temps, ça c'est l'expansion de l'univers, mais ces distances entre les galaxies augmentent plus vite les 6-7 derniers milliards d'années de l'univers qu'au début de l'univers, quand on a dit que l'univers avait à peu près 13,8 milliards d'années. Et on n'a aucune idée du mécanisme qui est à l'origine de cette accélération, et c'est ce qui domine complètement la dynamique de notre univers aujourd'hui. Vous avez dit, l'énergie noire représente 70% du contenu de l'univers aujourd'hui. Et donc, pour essayer de comprendre un peu les propriétés de cette énergie noire, on va essayer de retracer le plus précisément possible l'évolution des distances au cours du temps, donc la vitesse à laquelle l'univers s'étend au cours du temps, pour comparer nos observations avec différentes hypothèses sur les propriétés de l'énergie noire. Par exemple, le cadre théorique, disons, cosmologique dans lequel on travaille, on cherche à analyser nos observations, on suppose que cette énergie noire a des propriétés constantes au cours du temps, et on va donc vraiment juste avoir une constante qu'on rajoute dans notre modèle, qui a la bonne valeur pour expliquer les observations, mais on ne comprend pas pourquoi l'énergie noire aurait des propriétés constantes, et on ne comprend pas non plus la valeur qu'on doit donner à cette constante. Donc c'est pas très satisfaisant, et en tout cas, cette découverte à la fin des années 90 a motivé le développement de plein de programmes d'observation du ciel. Moi, le programme sur lequel je travaille actuellement, c'est un programme qui s'appelle donc DESI, pour Dark Energy Spectroscopic Instrument, un instrument spectroscopique pour étudier l'énergie noire. Et le principe, c'est un peu ce que Marc expliquait, c'est que on va collecter la lumière des galaxies. On le fait au moyen d'un télescope qui est situé aux États-Unis. Donc ce télescope, il a un miroir principal qui fait 4 mètres de diamètre. C'est le miroir qui va collecter toute la lumière. Cette lumière, en provenance des galaxies, cette lumière, elle va être renvoyée, focalisée au niveau de ce qu'on appelle le plan focal du télescope. Et ce plan focal, c'est un plan focal sur lequel il y a 5000 fibres optiques qui sont robotisées, donc leur position est robotisée avec des petits robots, et chacune de ces fibres optiques va capturer la lumière d'une galaxie. De sorte que toutes les 20 minutes, on observe simultanément, on collecte simultanément le spectre lumineux de 5000 galaxies. Cette lumière, qui est capturée par nos fibres optiques, elle est envoyée à travers des câbles jusqu'au spectrographe, et le spectrographe va jouer le rôle du prisme, va décomposer cette lumière. On va obtenir du coup le spectre lumineux de nos galaxies, et à partir de ce spectre lumineux, vous l'avez compris, on va mesurer des raies d'absorption, d'émission de certains éléments, dont la position va nous dire, le décalage par rapport à si l'objet ne bougeait pas, si la galaxie ne bougeait pas, va nous dire à quelle distance cette galaxie se situe de nous. Donc on est comme ça capable, avec DESI, de faire ce qu'on appelle une reconstruction en trois dimensions de la position des galaxies dans le ciel. Et j'aime bien pour illustrer cette révolution technologique qu'est DESI, que en un an de prise de données avec DESI, on a collecté trois fois plus de positions de galaxies qu'en 20 ans de la génération précédente. Donc c'est pour et pourquoi on est capable de faire ça? Parce que là, cette fois-ci, avec Daisy, on est capable de collecter toutes les 20 minutes 5000 positions de galaxies avec la génération précédente de télescopes sur laquelle j'ai fait ma thèse. Il fallait à peu près une heure et demie pour collecter 1000 positions de galaxies. Donc là, c'est une révolution technologique derrière qui est super intéressante. Et pourquoi on veut avoir plus de galaxies dans notre catalogue? Parce que le nombre de galaxies va déterminer du coup la précision à laquelle on est capable de mesurer ces distances entre les galaxies, notamment leur évolution, l'évolution de cette distance entre les galaxies au cours du temps.
Marc Sauvage, vous travaillez aussi sur la détection de cette énergie noire. Est-ce qu'on a plusieurs manières de vérifier que cette expansion accélère, ou est-ce qu'on en a qu'une seule et du coup qui serait peut-être un peu incertaine?
Alors, comme dans beaucoup de domaines de la physique, on essaie au contraire de multiplier les approches parce que chacune des approches fait des hypothèses sur les objets qu'on utilise pour accéder à l'information. Ces hypothèses sont plus ou moins vraies. Et donc, c'est en croisant des investigations qui se posent la même question, mais qui font des hypothèses différentes pour y arriver, qu'on peut se débarrasser des choses qu'on appelle les inconnus inconnus, c'est-à-dire les choses dans la physique dont on ne sait même pas qu'elles existent et qui peuvent avoir une influence. Et donc, moi, je travaille sur une autre expérience qui s'appelle Euclide. Alors, Euclide, ça veut rien dire, c'est le nom de quelqu'un, et c'est le nom d'un géomètre.
C'est amusant parce que je l'ai cherché.
Voilà, exactement. Et je sais même qu'il y a, quand on a lancé le satellite, il y a des articles qui sont parus qui traduisaient Euclide comme un acronyme en cherchant qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire. Donc, ça veut rien dire, c'est vraiment le nom de quelqu'un, hein, c'est un géomètre. Et pourquoi on a utilisé ce nom-là? Parce que la relativité générale nous dit que la géométrie de l'univers est fonction de son contenu énergétique. Donc, il y a une relation intime entre les deux. Et nous, on utilise donc deux approches au moins, en fait. On utilise la même approche que celle que Pauline parlait. On a une façon différente de faire de la spectroscopie des galaxies pour mesurer leur décalage spectral. Et on utilise aussi une autre façon d'approcher la structure de l'univers, qui est de voir la façon dont les structures de l'univers dont on a parlé, ces filaments, ces amas, qui sont essentiellement des structures de matière sombre, puisque la matière sombre, c'est à peu près 5 fois plus que la matière visible. Bien, comment ces structures, par l'effet de l'anti-gravitationnel, qui est une prédiction de la relativité générale, comment ces structures, elles déforment les images des galaxies qui se situent derrière elles. Et par ce biais-là, par le biais de ces déformations, de quelque chose qu'on arrive à mesurer, on est capable de détecter la structure de la matière noire. Et on va se poser les mêmes questions, c'est de dire, bien, cette structure de matière noire, comment est-ce qu'elle évolue dans le temps? On va la caractériser par des tailles, des contrastes de densité, et on va regarder comment ça évolue dans le temps, parce que c'est vraiment l'antagonisme entre la gravité qui va assembler les structures et l'énergie noire qui va plutôt avoir tendance à essayer de les diffuser ou de ralentir leur croissance, qu'on va mettre des contraintes sur ce que ça peut bien être que cette énergie noire.
Alors, je vais juste faire une petite précision, parce qu'effectivement, vous avez parlé de matière noire. Lorsqu'on regarde notre univers et qu'on essaie d'en comprendre le contenu, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a trois contenus distincts. Il y en a un qui est la matière qu'on connaît, celle dont on apprend les propriétés à l'école, qui est la matière normale, la matière connue. Il y a une autre forme de matière qu'on connaît depuis environ 100 ans, ou dont on imagine qu'elle existe, qui s'appelle la matière noire. On ne sait pas de quoi elle est faite. Celle-là, il y en a 5 fois plus que la matière connue, comme Marc Sauvage, vous venez de le dire. Et ensuite, il y a l'énergie noire, qui est encore autre chose, dont nous parlons là, dans cette émission, qui est cette force d'antigravitation un petit peu, qui va repousser à grande échelle les galaxies en étirant l'univers plus que ce qu'il n'était avant. Alors, je rassure tout le monde là, qui nous écoute, on fera une émission un jour sur la matière noire, plus précisément.
Oui, donc c'est différent. La matière noire, c'est absolument Presque l'inverse, alors. Parce que,
non, Pauline Zarouk.
La matière noire, c'est un peu ce qu'il y a dans les trous noirs, ou je dis une bêtise? C'est pas de la suite.
C'est pour ça que moi, j'aime bien faire la distinction entre noir et sombre. Oui. Parce que, justement, les trous noirs, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on comprend bien, et qui même on observe. Et la matière sombre, c'est quelque chose qu'on comprend beaucoup moins et qu'on n'observe pas.
Mais par contre, la matière noire, à la différence de l'énergie noire, vraiment, la matière noire, on cherche des particules massives, mais dont on ne connaît pas la nature. Ça ne correspond pas aux particules qui constituent cette matière connue. On cherche de nouvelles particules, donc des objets, ou des objets, mais qui sont massifs. Si la matière noire est massive, ça veut dire qu'elle interagit gravitationnellement. Elle est soumise à la gravité, et c'est parce que la matière noire est massive et a une influence gravitationnelle sur les étoiles de notre galaxie que les étoiles restent dans notre galaxie, par exemple.
Elle doit déformer, cette matière noire doit déformer la perception de la lumière que vous recevez avec les télescopes, par exemple.
Tout à fait. C'est l'effet dont Marc parle.
En fait,
elle joue cet effet de lentille gravitationnelle.
On voit des arcs gravitationnels dans les amas. Ça, c'est peut-être un mot qui dit quelque chose à certains. Quand on regarde des amas de galaxies, on peut voir autour de certaines ou dans le centre de l'amas des structures très fines en forme d'arc qui sont en fait des images de galaxies qui sont situées derrière l'amas, beaucoup plus loin, et dont la lumière est déformée par le passage à travers essentiellement la matière noire de l'amas.
C'est marrant parce que ça crée une certaine cohérence dans notre univers où, grâce à des effets comme ça, étonnants, pas du tout prévu au départ, on a moyen d'aller voir beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu voir sans ces effets-là, parce que ces effets de lentilles, c'est vraiment comme si vous mettiez une lentille de loupe vers le ciel et que ça vous déformait un peu les images que vous voyez. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on regarde notre univers. Alors vous disiez, Pauline Zarouk, que la matière noire, on recherche des particules massives, mais comme moi, c'est l'énergie noire dont j'avais envie de parler aujourd'hui, vous avez mentionné tout à l'heure que ça pourrait être qu'on a une, peut-être plusieurs pistes pour deviner de quoi pourrait être faite cette énergie noire. Et je rappelle, en passant, pourquoi est-ce que, philosophiquement presque, c'est important de savoir ce que c'est? Bon, déjà, c'est le contenu de notre univers. Mais une fois qu'on aura bien compris ce que c'est, on pourra aussi avoir une idée du futur de notre univers, de ce vers quoi notre destinée tend. Est-ce que l'univers va continuer à s'étendre pour devenir glacé complètement ou
la mort thermique.
Voilà, la mort thermique ou retomber sur lui-même. Du coup, on aimerait bien savoir de quoi est faite cette énergie noire. Vous disiez tout à l'heure que ça pourrait être quelque chose qui, vous ne l'avez pas dit en fait, pourrait avoir un lien avec l'énergie du vide.
Oui.
Est-ce que vous pourriez préciser un peu ce que ça signifie?
Alors effectivement, à partir du moment où on a dit qu'une constante dans notre théorie qui décrit la gravitation, donc qui est la relativité générale d'Einstein, pourrait expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers, on essaye effectivement de connecter cette constante cosmologique qui explique des observations cosmologiques, l'accélération de l'expansion de l'univers, à de la physique au niveau des particules et notamment ce qu'on va appeler l'énergie quantique du vide. Et donc du coup, il y a vraiment cette volonté d'essayer de connecter deux théories aujourd'hui qui ne se parlent pas du tout, on va dire, à savoir la théorie qui décrit l'univers dans ses plus grandes échelles, la gravité, et la relativité générale d'Einstein, et la théorie qui décrit les interactions des particules élémentaires, de ce qu'on appelle le modèle physique de modèle de la physique des particules. Donc il y a effectivement des tentatives d'essayer d'expliquer, connaissant la composition de l'univers au niveau de ces particules, d'essayer d'expliquer la valeur de cette constante cosmologique via cette énergie du vide. Mais le problème, c'est que les calculs à partir de notre théorie de l'infiniment petit donnent une valeur pour cette constante qui sont 60 à 120 ordres de grandeur plus grands que la valeur dont on a besoin, nous, pour expliquer les observations cosmologiques.
Ça signifie que, par exemple, si on fait 10 fois plus grand, c'est 1 ordre de grandeur,
voilà,
c'est 1-0.
Là,
c'est 60 fois plus grand, donc c'est 1 suivi de 60 zéros.
Exactement.
Donc, parfois même 120 zéros,
donc ça veut dire que ça ne marche pas du tout pour le moment, ce pont entre ces deux théories. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas un jour, hein, parce qu'il y a bien évidemment des hypothèses dans ces... Mais en tout cas, pour le moment, on explique, c'est ce que je disais, du coup, le raccourci que j'ai pris, de dire qu'on ne comprend pas la valeur que cette constante cosmologique a pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Et donc, du coup, effectivement, on essaye d'avoir des propriétés sur cette énergie noire. Et ce qu'il faut bien essayer de comprendre aussi, c'est qu'on essaye d'avoir des propriétés, comme on le disait, via différentes observables de notre univers. On vous a parlé de deux projets, là, Euclide et DESY, qui donnent des informations sur des observables de l'univers aujourd'hui. Mais on a aussi des expériences, des observables qui nous donnent des informations sur l'univers, au début de l'univers primordial. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, on n'aura pas le temps. temps, mais il y a ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique.
C'est cette lumière dont vous parliez tout à l'heure, Christian.
Exactement. C'est cette première lumière émise dans l'univers. On est capable, ces premiers photons, particules de lumière émises dans l'univers, on est capable de les capter aujourd'hui sur Terre et nous renseignent sur l'état de l'univers 380 000 ans après le Big Bang. Et c'est vraiment la confrontation de différentes observables de l'univers à différents moments de l'univers qui nous donne cette vision cohérente de l'histoire de l'univers. Et il faut que notre modèle explique toutes ces observations. Et les derniers résultats de DAISY ont montré que, et ce n'est pas un résultat que de DAISY, c'est en combinant les résultats de DAISY sur la façon dont les galaxies se structurent avec comment l'univers se comporte 380 000 ans après le Big Bang. Quand on confronte ces deux observables, de l'univers au début et de l'univers aujourd'hui, on commence à montrer des déviations par rapport à un modèle où l'énergie noire serait constante. On n'en est pas au stade de confirmer que cette hypothèse d'énergie noire constante n'est plus valable, mais on commence à voir un peu pour quand même la première fois des déviations par rapport à ce modèle actuel où on suppose que l'énergie noire a des propriétés constantes. Et si l'énergie noire n'a pas des propriétés constantes, et donc dans ce cas-là, si elle varie au cours du temps, ses propriétés varient au cours du temps, alors c'est la porte ouverte effectivement pour une compréhension plus fine, pour des modèles plus motivés théoriquement pour essayer de comprendre l'accélération de l'expansion de l'univers, sans parfois avoir besoin de faire appel à un nouveau constituant dans l'univers. On pourrait aussi, en modifiant la gravité, expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers.
Alors, je sais pas vous, mais moi je suis ravi parce qu'on a dit énergie noire, relativité générale et énergie quantique du vide un samedi matin. Et moi, ça me rend heureux. Et pour vous dire à quel point ça me rend heureux, et avec toute l'équipe du Big Bang, on était content de faire cette émission parce qu'on a aussi réussi à caser l'empire du côté obscur de I Am.
Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréel. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force.
Le sombre monarque débarque et éteint le son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Ou je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui. Tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qui se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion de bas fond du pays en action. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule d'un rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur. Viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi, il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine? Je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noire sur la plus pure de l'empereur et arbore les couleurs du côté obscur.
Obscur, la force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur.
Nous devons tous deux unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force.
Je suis le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador, le grand cador du maniement, le mic j'adore. Adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, salive empoisonnée, langue amère, un pilote V50 en tant que sabre laser. Quoi, ma conscience comme seule médaille, je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement, je vois ta main droite gantée de noir. c'est sans espoir. La mutation s'amorce, ta nature que tu obtures, le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part, rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce nid de Jean-Claude Godin Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi, le microphone crépite, crache des tas de flammes sur les empoiles. Fils de Dieu, tremble mais lutte avec ses armes, renverse les créneaux qui lui semblent erronés, brise les traîtres de la tête opéronnée. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies.
Aide-moi.
Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque sous le roc, sous une armure du soldat le plus dur de l'Empire du côté obscur.
Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard.
Nous continuons d'explorer l'énergie noire en compagnie de mes trois invités, l'astrophysicien Marc Sauvage, l'astrophysicienne Pauline Zarouk, le comédien et metteur en scène Christian Heck et le public du studio 181 qui se prépare à poser ses questions.
France Inter. Christophe Galfard, Big Bang.
Bonjour Florence, vous avez une question?
Oui, bonjour et merci pour tous ces échanges. Je voulais savoir en quoi l'IA aide vos recherches.
Marc Sauvage?
Oui, alors effectivement, les recherches sur lesquelles que l'on fait, elles utilisent l'intelligence artificielle, ou en tout cas l'apprentissage machine. Il faut voir que dans un relevé comme Euclide, là, nous, on va observer à peu près 10 milliards de galaxies. Il va falloir qu'on en sélectionne à peu près 1 milliard, 2 milliards, qui sont celles sur lesquelles on va pouvoir faire des mesures utiles. Et ça, c'est pas possible à la main. C'est pas possible avec des méthodes traditionnelles des astronomes d'aller regarder chacune des 30 000 images qu'on va faire dans lesquelles il y a plus de 10 000 galaxies. Donc il faut des systèmes automatiques qui apprennent de notre façon de travailler et qui déroulent ces méthodologies sur ces volumes gigantesques de données. Donc, il y a de l'intelligence artificielle maintenant dans la recherche. Alors, c'est sans doute pas l'intelligence artificielle comme le grand public s'expérimente au sens de ChatGPT. C'est pas, on va pas demander à ChatGPT, prends ces données et explique-moi ce qui s'y passe. Mais on va par exemple utiliser l'intelligence artificielle pour dire, ben voilà à quoi ressemble une lentille gravitationnelle, un arc gravitationnel. Donc, je vais lui montrer des exemples de ce à quoi ça ressemble comme image. Et je vais lui demander, maintenant, tu prends ces 15 000 degrés carrés, c'est-à-dire à peu près 30 000 fois la surface de la pleine Lune, et tu me les cherches toutes. Ce qui prendrait des vies entières. Et c'est vraiment là-dessus que l'intelligence artificielle nous aide. Elle nous aide aussi...
Et on ne peut pas parler comme ça à un doctorant.
On ne peut pas parler comme ça à un doctorant non plus.
On le fait, mais on ne peut
mais,
pas.
Voilà. Et l'autre chose sur laquelle elle nous aide, c'est parfois de faire des raccourcis, parce qu'on va avoir beaucoup besoin de comparer nos résultats à des prédictions de la physique, donc faire des simulations de ce que l'on devrait être en train de voir. C'est des simulations qui peuvent être extrêmement lourdes du fait de la quantité de physique qu'il faut mettre dedans. Et là, on commence à explorer des voies via l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut trouver des raccourcis vers le résultat de la simulation sans avoir à passer par toute la physique. Donc là, on se rapproche des méthodes d'intelligence artificielle générative. On va essayer de générer quelque chose qui est vraisemblable par rapport aux résultats qu'on cherche, sans avoir à passer par toute la physique prédictive.
Enfin, quelque chose que l'IA pourrait apporter qui soit positif. Hein. Nous avons une question d'Alain.
Oui, merci. Peut-on assimiler l'énergie noire à l'inflaton?
Alors peut-être que je fais une petite parenthèse pour expliquer ce qu'est l'inflaton. Au tout début, enfin dans notre univers, il y a des particules un petit peu partout, et puis il y a ce vide qui est là, ce vide quantique dont j'ai adoré qu'on prononce le nom tout à l'heure. Et dans notre univers, il y a des particules qui existent. Et pour expliquer d'une certaine manière le fait que notre univers, peut-être quand il était vraiment tout petit, on parle d'un bien avant qu'il ait une seconde d'âge, bien avant ça, il y aurait une particule, un champ, qui aurait été responsable d'une expansion accélérée à une vitesse extraordinaire, une inflation. Et on appelle inflaton cette particule, l'ensemble des choses qui pourraient avoir avoir créé cette expansion extraordinaire lorsque notre univers était tout petit. Pauline Zarouk, j'imagine que cet inflaton est peut-être une piste pour l'énergie noire d'aujourd'hui ?
Mais en tout cas, c'est une très bonne question, parce qu'il y a effectivement cette idée que si notre univers a déjà expérimenté dans son histoire une phase d'accélération, comme il est censé en avoir expérimenté une au tout début, eh bien peut-être que le mécanisme qui est sous-jacent est le même entre ces deux phases d'accélération, même si celle dont on a parlé aujourd'hui s'est déroulée beaucoup plus tardivement, hein, je vous ai dit les 6-7 derniers milliards d'années, mais c'est effectivement une piste théorique qui nous intéresse beaucoup et à titre personnel que je trouve très intéressante, parce que avec vraiment encore une fois cette idée que la physique sous-jacente serait la même. Et donc après, ce qu'il faut comprendre, c'est que la détection de cette particule d'un flaton reste encore à faire. On n'a pas encore montré de preuves observationnelles de l'inflation. C'est une période qui est indispensable dans l'histoire de l'univers pour expliquer d'autres observations que nous faisons aujourd'hui, mais on n'a pas eu d'observation directe qui confirme cette période-là de l'univers. Donc, bien évidemment, beaucoup de questions sous-jacentes.
Christian Hegg, vous aviez une question encore?
Oui, mais en fait, monsieur a soulevé, découvre une partie de ma question, enfin, répond en partie votre échange. Mais ma question est encore plus naïve, parce que je connaissais pas le départ d'explosion. Qu'est-ce qu'on... Je crois que ça a quand même rapport avec l'énergie noire. Je me suis toujours demandé ce qu'on voyait dans un télescope, comme vous racontez qu'on va quand même de plus en plus loin. Et pour moi, j'ai l'image de... Plus on est dans le passé, plus c'est le bordel. C'est tout à fait naïf. Hein. C'est peut-être...
Alors,
Mais c'est peut-être l'inverse. Mais pour moi, c'est une sorte de purée, de gaz, de trucs, une purée omniprésente. Il n'y a rien qui est séparé. C'est l'entropie, enfin c'est à désordre maximum.
Alors, ça va dépendre du messager qu'on va utiliser. Hein, parce que si on utilise la lumière, si on utilise les photons, ces particules de lumière, les premiers photons émis dans l'univers, qui nous parviennent sur Terre, ont été émis 380 000 ans après le Big Bang. Donc si on prend uniquement la lumière, on ne pourra pas avoir d'informations sur l'univers avant ces 380 000 ans, parce que les photons ne nous parviennent pas. Donc il faut utiliser ce qu'on appelle d'autres messagers. Un autre messager possible, c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, qu'on a détectées sur Terre. Mais là, ce seraient des ondes gravitationnelles primordiales, générées dans l'univers, au tout début de l'univers, qui seraient aussi une prédiction de l'inflation. Donc on revient avec cette théorie du début de l'univers. Et au niveau de la physique, alors oui, effectivement, ce qui se passe... Avant l'émission de ces premiers photons dans l'univers, c'est relativement complexe parce que c'est plein de particules, etc. Mais en tout cas, au niveau de la formation des structures qui vont nous intéresser aujourd'hui, ce qui s'est passé au début de l'univers est plus simple qu'aujourd'hui, parce qu'au début de l'univers, ça se comportait, ce qu'on appelle en physique, ça avait un comportement linéaire. On a des relations assez simples pour expliquer comment le champ de densité se comporte dans l'univers au début de la formation des structures par rapport à aujourd'hui. Mais donc voilà.
Donc en fait, l'univers était plutôt mieux ordonné avant qu'il ne l'est aujourd'hui. Le désordre, on n'y coupe pas.
Il y a une dégradation de l'énergie.
Absolument, c'est catastrophique.
On est un bon exemple pour ça.
On va vers la mort thermique, je le dis.
Nous arrivons au moment où je vais vous faire écouter un petit son qui va apparaître vous allez entendre dans quelques secondes. Les micros sont ouverts, donc on va voir si vous arrivez à deviner de quoi il s'agit. Je vous le dis franchement, c'est impossible de trouver. Mais vous pouvez peut-être avoir des idées quand même. Pauline Zarouk, je vois que vous hésitez. Ben,
je ne sais pas si c'est ça, parce que je ne me rappelle plus du son, mais ils avaient fait un son associé justement à ces ondes gravitationnelles.
Alors, ce n'est pas les ondes gravitationnelles, mais c'est effectivement un son associé à quelque chose.
Le trou noir ?
C'est pas un trou noir. Non.
Oui, mais il y a un traducteur, c'est-à-dire
quelque
chose
et on
le transforme en son.
En fait, là, il y a une image.
C'est pas un verre de cristal avec son doigt mouillé où on fait le tour, c'est pas ça.
Et ben, on a effectivement transformé en un son de doigt mouillé sur une sur des verres en cristal. Ouais. Le son d'une image, d'un film, en fait, d'une... écoutez, je vous propose d'entendre, vu que c'était un film au départ, d'observations qui ont été faites par deux télescopes, un qui s'appelle Chandra et l'autre qui s'appelle Hubble. Et je vous propose d'écouter Michaela Hertel, qui est directrice de recherche à l'Observatoire astronomique de Strasbourg, qui va nous expliquer comment cette image a été transformée en son et ce que ça signifie.
Alors, les images qui sont mises en son ici, elles sont liées à la supernova 87A. C'est un événement observé dans le grand nuage de Magellan. C'est une galaxie naine proche de la Voie lactée, en 1987. Il s'agit d'une supernova gravitationnelle, c'est-à-dire de l'explosion d'une étoile massive en fin de vie, une fois qu'elle a épuisé tout son combustible nucléaire. Cette explosion produit une onde de choc qui se propage à grande vitesse. L'image que nous discutons montre l'interaction de l'onde de choc avec un anneau de gaz, matériel qui a été éjecté par l'étoile progénitrice de la supernova quelques 20 000 ans avant l'explosion. Et cette image est basée sur une série d'observations entre 1999 et 2013. Pour le son, on se promène tout le long de cet anneau, au fur et à mesure des années d'observation, avec une émission plus lumineuse qui est traduite en son, donc entendue plus forte et plus aiguë, et une gamme de notes différentes pour les observations en rayon X et les observations optiques pour pouvoir les distinguer.
Voilà ce que Michaela Hertel nous raconte là, c'est qu'on a des images en rayon X, ça veut dire qu'il y a un des deux télescopes qui s'appelle Chandra, qui détecte les rayons X qui viennent de l'espace. Il y a un autre télescope qui s'appelle Hubble, qui lui là pour le coup regarde plutôt en lumière que nos yeux perçoivent, de la lumière visible. J'ai voulu vous faire entendre ce son là parce que les supernovas, qui sont des explosions d'étoiles, dans certains cas, nous offrent des sortes de phares cosmiques parce qu'on connaît leur lumière de départ. Et du coup, lorsqu'on essaie de déterminer la distance des galaxies lointaines, comme le font Pauline Zarouk et Marc Sauvage, d'avoir des phares comme ça dont on connaît la lumière de départ nous permet de savoir exactement, plus ou moins exactement, disons, la vitesse à laquelle ils s'en vont de nous, s'éloignent de nous, et du coup, la vitesse à laquelle, la distance, la distance à laquelle ils sont de nous, et combien de temps dans le passé a été émise leur lumière de départ. Est-ce que vous imaginez en quelques secondes faire des découvertes phénoménales dans les années à venir? Daisy, les prochaines images de Daisy, elles seront...
Alors en termes de données, on a déjà accumulé 50 données, et on a les résultats qu'on a publiés, c'est avec 3 ans de données, et là on va publier une nouvelle analyse à l'été, automne prochain.
Combien de galaxies seront dedans?
Alors là, on a un catalogue avec 30 millions de redshift, enfin de positions de galaxies, et on a déjà collecté la position de 50 millions d'entre eux. Donc ça sera l'année prochaine, on va analyser les 50 millions.
Eh ben tous ces chiffres sont très impressionnants, mais c'est déjà la fin de Big Bang. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à Michaela Hertel de nous avoir expliqué le son de la supernova de 1987. Merci Christian Heck, vous êtes au Théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'au 8 mars dans le Bourgeois Gentilhomme que vous avez mis en scène avec Valérie Lessor. Pauline Zarouk, Marc Sauvage, merci beaucoup à tous les deux. Longue vie à Daisy et à Euclide, qui n'est pas un acronyme. Merci au public du studio 180 de la Maison de la Radio. Cette émission a été réalisée par Benjamin Riquet, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique Ludovic Asselot, à la vidéo Laurent Baudouin et à la préparation et à la programmation Élodie Royer. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une émission autour des ovnis. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les émissions Big Bang en podcast sur l'application Radio France et toutes les plateformes de streaming. Tout de suite, après le journal, retrouvez le grand face-à-face avec Thomas Negaroff. Bonjour Thomas, de quoi allez-vous nous parler ce midi ?
Bonjour Christophe, à midi, en ce jour de Saint-Valentin, on s'intéresse aux oubliés de la Saint-Valentin avec l'historien spécialiste des États-Unis, Romain Huret.